bienvenue à la Bulac pour ce nouveau rendez-vous de notre saison culturelle consacrée à la traduction, organisée en partenariat avec la Maison d'Europe et d'Orient. Ce soir, donc, cette table ronde nous réunit autour des lieux de la traduction, ces lieux physiques ou virtuels où des textes sont proposés à la traduction, où ces textes et leurs traductions peuvent être visibles. Donc nous allons parler de circulation de ces traductions, bien sûr, comme de l'animation de réseaux de traducteurs. Pour aborder donc ces vastes sujets, aussi vaste que les langues et les géographies qui nous rassemblent dans ces murs. Nous avons invité Ghislaine Glasson-Deschaumes à introduire la réflexion et ses différentes problématiques en nous présentant une réflexion qu'elle a menée dans le cadre de Transeuropéenne et qui a notamment abouti à un projet coopératif pour la traduction des sciences humaines et sociales. Donc elle va revenir un petit peu sur sa démarche et l'enquête et les résultats et les actions menées depuis. Dans un deuxième temps, les trois traductrices à ma droite, Sarah Siller, Monica Prochniewicz et Karine Sarmargia, toutes les trois fondatrices de la revue Retor, vous présenteront ce site en ligne où l'on verra donc le virtuel comme un lieu de choix et de traduction des textes. Et dans un troisième temps, nous évoquerons plus particulièrement la circulation, les traductions et leur circulation pour les textes dramatiques, le théâtre, avec Dominique Dolmieux, qui présentera le travail de la Maison d'Europe et d'Orient, et Nejdana, auteure et traductrice, actuellement en résidence à la Maison d'Europe et d'Orient, qui évoquera les différents lieux de traduction des textes dramatiques en Ukraine, tout comme la circulation de ses propres textes traduits. Alors, je vais donc, avant de passer la parole à Ghislaine Glasson-Deschaumes, vous la présenter très brièvement. Donc, elle est ingénieure de recherche à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, chef de projet du LABEX Les Passés dans le Présent, membre associé de l'Institut des sciences sociales du politique. De 1993 à 2004, elle a dirigé l'ONG Transeuropéenne Réseau pour la Culture en Europe, qui conduisait des projets de coopération internationale dans le domaine des sciences humaines et sociales, de la littérature, de la traduction et des arts, dans la région des Balkans et la région euro-méditerranéenne. Elle est par ailleurs directrice de la revue internationale de pensée critique transeuropéenne qu'elle a fondée en 1993, coordinatrice du projet international Traduire en Méditerranée. Elle a été responsable de l'équipe de recherche associée Traduire entre les cultures au Collège international de philosophie de 2005 à 2011. Et parmi ses thèmes de travail, elle s'intéresse tout particulièrement à la production et à la circulation des savoirs par la traduction culturelle, les pratiques interculturelles, la construction et le voyage des savoirs, notamment dans la région euro-méditerranéenne. Et donc c'est au titre de toutes ces recherches qu'elle va vous présenter donc l'étude menée dans le cadre transeuropéenne et ses résultats.
Merci beaucoup. Merci tout d'abord à la Bulac et à la Maison de l'Europe et de l'Orient pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici au titre d'une présence et de la possibilité qui m'est offerte de présenter ce travail sur la traduction dans la région euro-méditerranéenne dans une bibliothèque et de la présenter dans une bibliothèque de langues orientales. Alors, l'historique, je dirais, de ce dont je vais vous parler, est bien une histoire de lieu, c'est-à-dire de la revue d'idées comme lieu de traduction, et de lieu de traduction du débat d'idées. C'est ainsi que Transeuropéenne s'est créée en 1993 dans un contexte de crise et je dirais de profonds changements en Europe et dans la région euro-méditerranéenne, chute du mur de Berlin, première guerre du Golfe et guerre dans l'ex-Yougoslavie qui ont commencé donc en 91. À partir de là, l'idée c'était de construire un lieu de pensée critique qui donnerait la parole aux acteurs mêmes de ces événements ici ou là, au sud, à l'est, à l'ouest ou au nord, et donc nécessairement une revue qui, dès sa création, s'est mise à traduire beaucoup et de toutes les langues, du serbo-croate ou de ce qu'il en restait, c'est-à-dire ensuite du serbe, du bosniaque, du croate, puis du monténégrin, ou du russe, ou d'autres langues comme le polonais ou autres, de l'allemand, de toutes les langues européennes, mais aussi très vite de l'arabe ou du persan. Alors, notre idée, c'était bien sûr de donner accès à, en première main à des auteurs importants des sciences humaines et sociales qui n'étaient accessibles d'aucune manière, même si parfois les chercheurs français les connaissaient, les pratiquaient. Donc, cette revue de pensée critique s'est construite comme projet de traduction indiscutablement. Dans les programmes d'action qui ont été menés par la suite, en Méditerranée comme dans les Balkans, nous avons fait l'épreuve de la traduction, si je puis dire, dans des actions qui étaient des actions militantes avec des femmes à travers les frontières de l'ex-Yougoslavie, actions militantes dans des réflexions, dans des travaux sur les conditions de la démocratisation en Serbie, etc., etc. Je ne vais pas défiler ces exemples. Simplement pour montrer que le travail théorique a toujours été associé à un travail pratique et que la traduction a travaillé le projet de Transeuropéenne tant dans le domaine théorique que dans le domaine pratique. Alors, à partir de 2004, entre 2004 et 2009, donc il y a cette équipe de recherche associée au Collège international de philosophie. On est un peu dans l'après, encore dans les effets délétères du 11 septembre. On se dit, au fond, quoi faire, que faire? L'interculturel, c'est vraiment problématique. C'est un peu une sorte de soupe de langue de bois. Il faut redonner corps à quelque chose de l'interculturel qui se pense et se met au travail avec la traduction. Et nous nous ressaisissons d'un de ces espaces sur lesquels nous avions beaucoup travaillé à Transeuropéenne, qui était l'espace euro-méditerranéen, et nous nous disons, au fond, est-ce que si l'on ramène les enjeux du multilinguisme et de la traduction dans les échanges euro-méditerranéens, dans la réflexion sur le projet politique euro-méditerranéen, qu'est-ce que ça donne ? Et nous voilà partis à partir de 2008, donc c'est un projet qu'on a mis beaucoup de temps à construire parce qu'il a mis beaucoup de temps à trouver son financement. Nous voilà partis dans une, je dirais, dans la défense et illustration de la traduction comme miroir des échanges dans la région euro-méditerranéenne. Avec la nécessité en tout premier lieu de dire au fond, qu'est-ce qui est traduit ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui circule véritablement entre les langues de l'Union européenne, l'arabe, le turc et l'hébreu ? Et qu'est-ce qui circule aussi entre ces langues-là ? Nous commandons, alors nous montons d'abord nous montons le projet comme projet international, c'est-à-dire avec une quinzaine de partenaires en Europe et dans le sud de la Méditerranée, avec la fondation Annalint, qui est une fondation intergouvernementale pour le dialogue entre les cultures. Et nous posons comme hypothèse que la traduction ne peut pas être appréhendée seulement à partir du traducteur. Parce que souvent, on a tendance, quand on parle de la traduction, à parler du traducteur ou de ce qui est traduit au sens le plus lexicographique du terme. Et nous nous disons, au fond, la traduction, il faut questionner sa présence dans ce que nous avons appelé, dans ce que Transeuropéenne a vraiment posé dès 2008, comme la chaîne de la traduction. Alors la chaîne de la traduction, c'est se dire, comment l'œuvre, tout d'abord, bien sûr, qui traduit ? Qu'est-ce qui est traduit ? Comment ? Alors, quand on dit qui traduit, c'est qui sont les traducteurs, comment sont-ils formés, où, etc. Comment, avec quel partenariat, avec les éditeurs, dans quelle relation avec les éditeurs ? Quelle est la position des éditeurs en regard de la traduction ? Et ça inclut le travail avec le traducteur, mais ça inclut également la visibilité qui est donnée par l'éditeur à la présence du traducteur dans le livre. Dans la chaîne de la traduction, toujours, qu'est-ce qu'il advient de ce livre traduit ? Et ça n'est pas le moindre des apports de cet état des lieux, de mettre en lumière la question des conditions de la réception des œuvres traduites. Alors, des conditions culturelles, des conditions socio-économiques, des conditions de formation, d'éducation, mais en même temps aussi des conditions médiatiques, c'est-à-dire quelle est l'attention portée par les médias aux œuvres traduites et quelle est la place des œuvres traduites dans les bibliothèques, nous y revoilà, les fameuses bibliothèques. Et d'ailleurs, une des ouvertures très très intéressantes de ce projet, ça a été de se demander quelle était la place des auteurs arabes dans les bibliothèques françaises. Vous avez deux rapports en ligne sur cette question sur le site de Transeuropéenne que je vous invite à lire et qui nous ont beaucoup appris sur les relations de subalternité qui persistent aujourd'hui dans le rapport aux littératures arabes ou aux textes arabes dans la société française et dans les institutions culturelles françaises. Et puis, dernier point, toujours lié à la visibilité des œuvres traduites, dernier point qui est presque le premier quand on fait un état des lieux, enfin c'est de là qu'on part, c'est la question même des données bibliographiques, puisque quand nous avons lancé l'état des lieux, nous étions face à un index translationum de l'UNESCO totalement incomplet, voire fautif dans les données qu'il mettait en ligne. Hein. Je parle de 2008-2009. Depuis, l'index a énormément progressé grâce au travail de Mariusz Tukaj. Une absence totale de données bibliographiques, je dirais, bien sûr au niveau général sur le monde arabe, mais aussi dans beaucoup d'États, dans beaucoup de pays du monde arabe, des bibliographies incomplètes, voire des données bibliographiques parfois inexistantes en ligne, parcellaires, etc. Mais même dans beaucoup de pays européens, je pense à l'Italie, des données bibliographiques dont on ne peut pas faire la somme parce qu'il y en a un morceau à Turin, il y en a un autre à Rome et que finalement, il n'y a pas de données centralisées. Donc voilà comment on peut regarder la traduction, comment on peut appréhender, je dirais, la méthodologiquement, la traduction pour essayer de comprendre jusqu'où on doit questionner sa présence. Alors ce travail, très brièvement, 69 études, donc 69 paires de langues. Alors par exemple du bosniaque en arabe, de l'arabe en italien, de l'italien en espagnol, de l'espagnol enfin même des quatre langues officielles d'Espagne. Donc à chaque fois on avait français, arabe, arabe, français, turc, turc, français. La littérature, les sciences humaines et sociales, la littérature de jeunesse et en partie, de manière plus parcellaire, le théâtre, puisque c'est un objet, on en parlera tout à l'heure, difficile à appréhender par les données bibliographiques, la traduction théâtrale excédant évidemment cet aspect. Alors, les résultats, je ne vais pas vous en rendre compte ici, ils sont en ligne publiés sur le site de Transeuropéenne, à la fois de manière très détaillée, si vous pouvez retrouver des couples, des paires de langues qui vous intéresseraient, mais vous avez également les conclusions et recommandations générales qui sont publiées en ligne, en français, anglais, arabe, sur le site. Par contre, je voudrais insister sur quelques éléments. ce n'est pas une surprise, ou vous ne serez pas surpris, évidemment, si je vous parle d'une inégalité d'échange entre les rives de la Méditerranée, entre la rive nord et la rive sud, avec, pour ce qui est des traductions du nord vers le sud, une prédominance évidente du français et de l'anglais, ou de l'anglais et du français, suivant les régions, suivant où on se situe dans le monde arabe, avec bien sûr aussi une prédominance de ces langues en turc, une prédominance massive à 75% de l'anglais en hébreu, mais un manque de diversité, de perception de la réalité de la dédiversité culturelle et linguistique des pays d'Europe dans ces pays-là. Et à l'inverse, lorsqu'on regarde les traductions du sud vers le nord, on se rend évidemment compte que cela va d'une présence faible, 0,6% des traductions nouvelles en France sont des traductions de l'arabe en français, 0,60 livres par an, c'est pas énorme. Par exemple, et pourtant la France est le pays qui traduit le plus ou qui a le plus traduit en 25 ans de littérature du monde arabe. Donc une inégalité quantitative, une inégalité au sens où ce sont essentiellement des œuvres littéraires qui sont traduites par exemple de l'arabe ou du turc, au détriment, enfin je dirais pas au détriment, mais qu'il y a une absence quasi totale de traduction des sciences humaines et sociales en arabe. On a de l'arabe en français. On a par exemple décompté 25 titres sur plus de 1000 titres en 25 ans. Donc on est bien dans des représentations du savoir, et notamment des savoirs en sciences humaines et sociales, qui font que, globalement, on ne sait pas ce qui se pense ou ce qui s'écrit en turc, pas plus qu'on ne sait ce qui se pense ou ce qui s'écrit en arabe dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ça, ou, je dirais plus largement, dans le domaine du débat d'idées. C'est assez troublant parce que quand on voit la surprise, par exemple, des responsables européens au moment des révolutions arabes, et quand on lit certains jeunes auteurs arabes, que ce soit des auteurs de fiction ou des auteurs, des jeunes chercheurs ou des gens qui sont très impliqués dans le débat d'idées, on se dit qu'effectivement, si on avait traduit plus tôt, on aurait peut-être été moins surpris, moins saisi de stupeur, et on aurait un peu mieux compris ce qui se tramait dans beaucoup de ces sociétés. Je ne parle même pas du rapport à la Turquie, ça mériterait de longs développements, mais on a quand même tendance à penser que rien ne se pense en Turquie, par exemple, sur le génocide arménien, ou que rien ne se pense en Turquie sur le rapport aux religieux ou autre, alors qu'au contraire, on a de la pensée critique, on a de la recherche, critique en histoire, et qu'il n'y a pas d'accès à ces textes aujourd'hui. Par exemple, le grand historien Zafer Toprak est quelqu'un qui n'est toujours pas traduit en français, ou pas plus d'ailleurs en allemand ou autre. Alors à partir de là, évidemment, cette hausse des sciences humaines et sociales nous a véritablement interpellés, ce qui était un peu normal parce que Transeuropéenne étant une revue de pensée critique, il était normal qu'on s'intéresse à cela aussi. Et nous avons décidé, pour la suite de notre état de ce projet, de nous concentrer véritablement sur les sciences humaines et sociales. Alors pourquoi ? Parce que bien sûr, il y a ce déficit quantitatif, mais il y a surtout aussi un déficit qualitatif et un déficit de méthode, en quelque sorte. Un déficit de méthode à plusieurs titres. Tout d'abord, nous nous rendons compte que la traduction des sciences humaines et sociales, que ce soit des langues européennes dans ces langues que j'ai citées ou à l'inverse, se fait selon des logiques qui ne prennent pas toujours en compte ou qui prennent rarement en compte les besoins des sociétés, qui prennent rarement en compte les conditions de réception de ces textes. Je veux dire, quand on a traduit, par exemple, la déconstruction de la modernité dans les pays de l'Est, enfin dans les ex-pays de l'Est après la chute du mur, on n'a pas fait le passage par les textes fondateurs de la modernité. Ça n'a pas été sans conséquence sur l'évolution théorique de certains philosophes en Bulgarie, en Slovénie ou ailleurs. Alors, donc, la nécessité d'apporter peut-être quelque chose d'expérimental, enfin des propositions alternatives sur le mode d'approche des textes, de comment choisir les textes. Donc, premier élément que nous avons mis en lumière et auquel nous répondons par un dispositif de co-décision, c'est-à-dire de mise en débat sur certaines questions urgentes qui se posent aujourd'hui dans les sociétés de la rive sud, de la rive nord, la mise en débat sur les textes à traduire. Je vous donne un exemple, si j'ai le temps, je ne sais pas. Un exemple récent, on a organisé à Rabat au mois de janvier un atelier sur traduire l'histoire du temps présent, traduire la mémoire, donc avec des chercheurs de différents pays. Et nous avons eu un débat avec nos collègues marocains qui disaient oui, ça serait pas mal de traduire Pierre Nora, c'est quand même Pierre Nora. Les lieux de mémoire. Et il y a eu un débat avec les chercheurs français qui étaient là et qui ont dit, mais oui, mais Pierre Nora, ça fait 30 ans qu'il... Enfin, ce livre date de il y a 30 ans, il répondait à des besoins bien particuliers et à un projet spécifique. Depuis, il a été mis en débat, il a été contesté, il y a eu des évolutions de la pensée par rapport à ça. Donc, si vous traduisez Nora... Vous pouvez traduire, par exemple, le texte introductif et puis traduire le débat qui a suivi. Donc voilà ce que nous appelons notre dispositif de co-décision qui, au fond, vise à discuter, débattre de la pertinence de la traduction de tel ou tel titre ou de la manière dont il faudrait l'accompagner pour que la traduction soit véritablement... compréhensible et qu'elle soit un véritable apport dans la société donnée. Le deuxième point qui nous a beaucoup interpellés, c'était la question de la qualité des traductions. Et là, je parle de la qualité des traductions dans les deux sens. Hein, traduction de textes arabes dans les langues européennes, alors peut-être moins en français où il y a eu une grande tradition d'arabisant, mais malgré tout, dans d'autres langues, c'était très perceptible. Et nous avons aussi constaté que la traduction des textes philosophiques ou théoriques arabes n'allait pas de soi en français, au sens où, même s'il y a, tel ou tel livre est traduit par un très grand auteur, il manque parfois la contextualisation, par exemple, de pronoms Jabed al-Jabri, un grand philosophe marocain. S'il n'est pas contextualisé, s'il n'y a pas, l'écosystème de ce livre qui est vraiment rendu lisible, et s'il n'y a pas aussi un travail d'écriture qui permette au texte d'être mieux appréhendé, eh bien... le livre manque son objet. Pour la traduction d'auteurs, par exemple, du français, de l'allemand ou autre dans ces langues, comme dans d'autres langues, d'ailleurs ce n'est pas propre à l'arabe ou autre, enfin, l'arabe est un cas intéressant. Je prends l'exemple de Derrida. Les grands concepts de Derrida sont traduits différemment suivant qu'ils ont été traduits à Alger, au Maroc, au Liban ou en Égypte. Parce qu'il y a au moins 4 ou 5 traducteurs de Derrida dans le monde arabe aujourd'hui, qui sont tous des traducteurs très brillants, mais qui ne se sont jamais accordés sur les concepts clés de la philosophie de Derrida. D'où la seconde proposition collective de traduction que nous avons dégagée. Nous nous sommes dit, sur les chantiers que nous allons engager à l'avenir, et de manière très expérimentale, de manière pilote, nous allons créer un dispositif de traduction collective. En soi, ça n'a rien d'original de faire de la traduction collective. Hein. C'est une vieille histoire et ça a commencé il y a très très longtemps à Alexandrie. Ça n'a vraiment rien d'original. Mais par contre, ce que nous essayons de faire, c'est de ramener l'idée de la traduction collective en avant, alors même qu'il y a quand même, notamment du fait de la reconnaissance du traducteur comme auteur, une résistance aussi à cette idée du collectif dans la traduction. Alors, traduction collective qui fonctionne comment ? Qui fonctionne sur le principe que on ne s'improvise pas traducteur, c'est-à-dire qu'il y a une méthode de traduction, il y a un métier de la traduction, mais qu'en même temps, on ne s'improvise pas chercheur en sciences humaines et sociales. Et que traduire de la linguistique ou traduire de la sociologie suppose de maîtriser les concepts et de maîtriser les concepts à l'intérieur d'un dispositif socio-culturel, sociolinguistique qui est tel ou tel. Donc, ce fonctionnement par binôme est quelque chose que nous essayons de mettre en avant. Et en même temps, nous essayons aussi, en nous appuyant sur l'intercompréhension entre les langues romanes, d'expérimenter un dispositif de traduction collective associant des traducteurs de différentes langues autour d'un même auteur, par exemple d'un même auteur arabe. Donc, pour voir jusqu'où on peut pousser la démarche translinguistique, si je puis dire, de traduction et pour voir de quelle manière différentes langues peuvent éclairer un processus de traduction d'un auteur. Et comme évidemment nous sommes en temps de crise, que les traducteurs n'ont pas nécessairement, enfin que nous n'avons pas les moyens d'organiser des ateliers de traduction ici ou là, et qu'il y a aussi beaucoup de déperdition d'efforts aujourd'hui sur toutes ces questions, nous avons mis en place un dispositif qui sera opérationnel en juin, mais qui est un dispositif numérique. Là aussi, ça n'a rien d'original. Mais on se dit qu'effectivement, on a aujourd'hui des moyens de travail collaboratif par les dispositifs numériques qui offrent des possibilités à la fois de mettre des outils à disposition pour des traducteurs qui travaillent à grande distance les uns des autres, mais aussi de publier des lexiques, de mettre à disposition leurs commentaires de traduction, etc. Donc c'est un travail qui, vous le voyez, résulte de cet état des lieux, mais qui vient d'un peu plus loin, c'est-à-dire d'un travail de pensée critique plus largement sur la traduction et qui n'a pas d'autre prétention que de faire une preuve de concept au fond. Et à partir de là, ce que nous voudrions dégager, c'est peut-être quelques propositions de méthode qui puissent être partagées par d'autres, puisqu'on est dans une logique ouverte. Voilà.
Eh bien, merci Gisèle Glasson des Chaumes. Justement, vous me donnez une excellente transition en parlant de dispositifs numériques vers nos trois fondatrices du site internet Rotor. Alors, je pourrais vous présenter longuement leurs travaux respectifs, mais pour ce faire, je vous renvoie également à la page de la rencontre où vous trouverez en fait la liste de toutes les traductions qu'elles ont déjà accomplies les unes et en binôme d'ailleurs. Très rapidement, juste pour vous dire que donc Monica, doctorante en littérature à Paris 3, traductrice et conservatrice des bibliothèques, travaille en binôme avec Sarah Siller, qui par ailleurs également à l'université enseigne la littérature comparée à Sorbonne Nouvelle, qui est traductrice, mais aussi dramaturge. Voilà, je suis désolée, c'est terriblement résumé. Et quant à vous, Karine, vous êtes également traductrice. Vous avez fait vos études ici à l'INALCO, bosnien, croate et serbe. Hein, et vous traduisez notamment des textes de théâtre et de poésie. Et toutes les trois, donc, vous avez créé ce site multilingue qui présente donc des textes littéraires inédits en français. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez créé ce site et à quelle fonction il répond ?
Oui, alors, nous avons créé ce site en 2006. Et au début, c'était une expérience purement naïve, purement étudiante. Donc, Karine et Sarah suivaient des cours à l'INALCO. Il y avait donc beaucoup à faire à des textes, surtout au Balkan, qui n'étaient pas encore traduits en français, des textes littéraires, des beaux textes. Et par ailleurs, Sarah et moi, nous suivions des cours en littérature comparée à Paris 3. Nous étions également entourés de personnes qui traduisaient des textes littéraires dans le cadre de leur travail universitaire. Nous avons eu tout d'abord un projet d'une revue papier et d'un premier numéro que nous avons projeté. C'était un numéro qui était donc centré autour de la poésie d'avant-garde en six langues, en serbe, espagnol, polonais, autrichien, anglais et russe. Nous avons sélectionné le texte, nous avons collaboré pour ce numéro avec une illustratrice. Et puis, nous avons contacté les imprimeurs et nous avons eu les devis pour les numéros papier. Et à ce moment-là, notre enthousiasme a un tout petit peu retombé. Les traductions étaient prêtes, les illustrations étaient prêtes, mais nous n'avons pas eu de financement. Nous avons commencé donc à monter des dossiers pour avoir le financement pour ces numéros. Et à ce moment-là, Sarah a fait une rencontre décisive pour la suite de notre projet, dont elle va vous parler.
En fait, la rencontre décisive, ça a été celle de François Bon, l'écrivain, qui est très militant de l'édition numérique et de l'écriture numérique. Et donc, je lui avais parlé du projet et il nous a aidés, en fait. Il nous a mis en contact, enfin, il nous a aidés à réaliser la plateforme et il nous a mis en contact avec Philippe de Jonquer, qui a un site très intéressant qui s'appelle désordre.net. Et qui a conçu le site avec justement le fait que les deux langues apparaissent pas simultanément, mais qu'on puisse passer de l'une à l'autre grâce à la souris. Et c'est Julien Kirsch qui est devenu le webmaster du site. Donc en fait, ils ont rendu possible et concret le projet qu'on avait de faire coexister les deux langues et que ce soit finalement assez accessible, assez facile, assez diffusé. Donc voilà, donc après, suite à la mise en place du site, on a laissé tomber l'idée du papier et on est resté axé et conforté, voilà, avec ce site numérique, cette proposition numérique.
Alors, j'ajouterais juste que donc, le site est réalisé dans le logiciel libre SPIP, ce qui a son sens à la Bulac, qui a toutes ses interfaces dans les logiciels libres. Et donc, effectivement, nous investissons de notre temps, nous investissons de notre travail. Les traducteurs ne sont pas payés, mais le projet est possible depuis 6 ans. Nous l'alimentons continuellement. Nous avons mis en ligne et donc publié des dizaines maintenant de textes. Alors, il y a en fait deux principes. Le premier principe de choix de publication de textes, c'est la qualité littéraire et c'est le fait que le texte ne soit pas édité en français pour l'instant. Le deuxième principe, c'est effectivement de rendre visible en même temps la traduction et l'original. Ce qui rappelle un tout petit peu les éditions bilingues sur papier, sauf que là, à tout moment de la lecture, nous pouvons recourir au texte original. Notre idée de début, c'était aussi que la traduction puisse être un chantier sur lequel on puisse revenir facilement, qui puisse s'améliorer au fur et à mesure. Et effectivement, c'est très facile maintenant de revenir sur sa propre traduction, de l'améliorer, de la rendre plus lisible. Une deuxième possibilité qui est donnée grâce à cette interface et à cette identité numérique, c'est une possibilité de servir aux traducteurs des vitrines auprès des éditeurs. C'est-à-dire, beaucoup de ces textes sont des textes donc, de qualité, qui ont demandé beaucoup de temps de travail aux traducteurs, mais qui ont été la plupart du temps refusés par des éditeurs papier, puisque considérés pas assez rentables, ne s'inscrivaient pas dans des projets éditoriaux préexistants. Et il est déjà arrivé à des textes qui ont été publiés donc, sur Rhetor à être ensuite publiés hein, grâce à la diffusion qu'ils ont eue.
D'ailleurs, le site permet une bibliographie et aussi pas mal de notes. Donc, ça peut parfois aider justement à mettre en valeur les textes. Sur la colonne de gauche, là, on peut toujours ajouter des notes, ce qui, dans des éditions papier, n'est pas forcément très heureux. Mais là, ça s'y prête. Voilà.
Pas mal. Donc, pour un petit bilan, donc, nous sommes aujourd'hui... nous avons aujourd'hui sur ce site 14 ateliers thématiques, plus un atelier spécial que nous avons créé il y a seulement 2 mois, qui est dédié aux traductions des stagiaires de l'école de traduction littéraire fondée auprès du CNL par Olivier Manoni en 2013. Nous comptons donc plusieurs textes qui sont importants dans la culture d'origine et qui n'ont pas du tout pu être traduits ni publiés en français, donc nous rattrapons certains retards. Je pense notamment au poème futuriste d'Alexander Watt ou alors à La Turpitude de Marco Ristich traduit par Karine, ou alors aux quelques poèmes de Vladimir Khlebnikov qui n'étaient pas encore disponibles en français. Et puis, par ailleurs, un autre versant, c'est des textes contemporains, hein, des auteurs très jeunes, qui commencent seulement à écrire, et qui permettent, la publication de ces textes permet d'avoir une vue d'ensemble sur la création dans les zones linguistiques particulières. Je pense notamment aux 3 ateliers sur la littérature hispanophone que nous avons consacrés, que nous avons ouverts sur Rhetor, ou alors à de nombreux textes des Balkans, dont Karine va vous dire un mot.
Oui, donc, pour ce qui est des Balkans, nous avons créé une rubrique consacrée aux textes dramatiques. Je voudrais revenir sur les rubriques hispanophones qui ont été dirigées par Ivan Salinas. Mm-hmm. Et 3 numéros, moi, il me semblait qu'il n'y en avait que 2.
3.
3, mm-hmm. Je ne suis pas très... Donc, nous avons laissé un peu la main à des collaborateurs extérieurs... pour ces rubriques-là. Et pour ce qui est des textes dramatiques de l'espace ex-yougoslave, nous avions invité à l'époque Miloš Lazin, qui est metteur en scène, et qui nous avait donc fourni les textes, ainsi qu'un aperçu du théâtre contemporain dans les Balkans. Nous avions aussi fait à l'époque tout un travail de recherche bibliographique qui était en ligne, mais qui a été retiré depuis, mais que vous pouvez toujours trouver donc sur le site de Troisième Bureau. Cette bibliographie peut être téléchargée en PDF et elle est réactualisée tous les 2 mois. Donc, suite à un accord, on ne voulait pas trop s'éparpiller. Donc, voilà. Et les textes... pour ce qui est des textes dramatiques d'ex-Yougoslavie, il n'y a pas eu de publication par la suite.
Alors, peut-être le dernier texte dont nous voudrions vous parler, c'est un texte qui vient d'être mis en ligne au mois de mars seulement, qui est un texte de Kamau Brathwaite, un auteur en sciences humaines, pour le coup, des langues anglaises, mais qui vient des Caraïbes, et qui est également poète. Et grâce à Sika Fakanbi, qui suit avec nous le cours de traduction littéraire au CNL, nous avons pu avoir accès aux premières traductions françaises de ces textes. Nous avons même pu mettre en ligne un petit enregistrement où les voix de l'auteur et de la traductrice se superposent, mais malheureusement, il est impossible de l'ouvrir ici. Ouais. Voilà, donc le fonctionnement de la revue est toujours bénévole. Nous n'avons toujours pas de subvention, ni ne correspondons pas vraiment aux critères d'aide du CNL, mais continuons de fonctionner. Et nous accueillons bien volontiers les propositions spontanées de traduction.
Bien, merci. Donc, un exemple de traductrice qui travaille donc en réseau et dans des espaces communautaires virtuels. Allons vers des murs, une maison, la maison d'Europe et d'Orient, avec Dominique Dolmieux. Dominique Dolmieux, metteur en scène, spécialiste des écritures théâtrales contemporaines. Avec lui, donc, nous entrons dans le vif du sujet des textes de théâtre. Donc, Dominique Dolmieux a fondé avec Céline Barque la Maison d'Europe et d'Orient, qui est une association créée en 85, consacrée aux cultures d'Europe de l'Est et d'Asie centrale dans les domaines du livre et du spectacle vivant. Donc, ils agissent pour la circulation des traductions et la mise en réseau des traducteurs selon différents modes, des résidences d'écrivains, des créations théâtrales avec le Théâtre national de Cildavie, soutien à la diffusion de dramaturgie par le réseau européen de traduction Eurodrame et également une politique éditoriale avec les éditions L'Espace d'un instant. Et donc je le laisse présenter toutes ses actions.
Bonsoir, merci Joël pour l'invitation. Donc la Maison d'Europe et d'Orient, effectivement, c'est un abri, on va dire, dans lequel on peut trouver une librairie spécialisée sur les régions dont on va parler, une bibliothèque théâtrale qui est essentiellement en langue originale et pas mal de traductions aussi, mais pas de pièces française, francophone, un réseau européen de traduction théâtrale, donc qui s'appelle Eurodrame, dont on va parler après, une maison d'édition L'Espace d'un instant, une compagnie de théâtre, puisque quand je ne fais pas de la comptabilité, je monte parfois des spectacles, et une petite salle de 47 mètres carrés qui reçoit toutes sortes d'événements, aussi bien en fabrication qu'en diffusion. Quand on travaille, donc des répétitions pluridisciplinaires, de la musique, du cinéma, de la danse. On a même eu le Ballet National d'Ouzbékistan dans nos 47 mètres carrés, ce qui est une performance. Je voulais parler puisqu'on me demande de parler un petit peu d'où venaient ces choses-là. Donc en fait, l'association de la Maison d'Europe et d'Orient date de 85. Alors elle a changé de forme à moult reprises. Elle s'est intéressée au théâtre à partir de 1989. Et je voulais vous raconter peut-être ma première expérience et dernière en tant que traducteur. Donc à partir de 89, donc j'avais une vingtaine d'années. Et voilà, donc j'ai découvert qu'il y avait un mur à l'est de l'Europe. Il y en a toujours un, il s'est un peu déplacé, il est à Chypre maintenant. Et je voulais travailler sur une adaptation du Meilleur des mondes de Aldous Huxley. Et voilà, je vous passe les détails, mais toujours est-il que voilà, dans le cadre de mon travail sur ce texte-là, j'ai voulu partir en Albanie, qui était le dernier régime proche de chez nous, à couleur vaguement communiste. Et on m'a dit surtout n'y allez pas, donc je dis ah, super, j'y vais tout de suite. Et donc j'ai d'abord rencontré un peintre qui s'appelle Edi Rama, qui m'a dit mais tu devrais aller voir un dramaturge absolument extraordinaire qui s'appelle Kassem Trebeshina. Donc je suis allé le voir, on a fait affaire et on a cherché une traductrice qui s'appelle Mirella Kumbaro. Alors le premier problème c'est qu'il y avait une version en albanais évidemment, et une version en anglais. Et l'auteur ne voulait pas travailler avec qui que ce soit ayant eu le moindre rapport avec l'Albanie ou les Albanais. Donc ça réduisait un petit peu le champ. Et puis donc il voulait qu'on fasse un mélange de ces deux traductions. Donc on a commencé à chercher un peu. Il y avait alors un premier mot qui nous a sauté un petit peu aux yeux. C'était palace. Et donc en anglais, hein, je sais pas comment on prononce, palais, pas un truc comme ça, vous avez compris. Et donc je cherchais à comprendre ce qu'était ce palais. C'est un grand hôtel, un palais. Et en fait, voilà, en albanais, un immeuble, un bête immeuble, voilà, comme il y en a en face, ça dit palace. Donc voilà, il fallait ne changer aucun mot à cette double traduction. Et voilà, c'est, ça n'a pas été. Après, j'ai arrêté la traduction. Et voilà, bon, pour le faire mot de l'histoire, cette traductrice, donc Mira Kumbaro, est depuis un an ministre de la Culture, et Edi Rama, ce peintre qui m'avait envoyé vers cet auteur, est Premier ministre. Donc voilà, c'est les hasards de l'histoire qui sont assez rigolos. Voilà, dans les quelques activités qu'on fait en rapport avec les langues. Il y a déjà, comme on invite pas mal de gens de pays divers et variés. Oui, j'ai oublié de dire, donc notre zone de travail, c'est Europe, Méditerranée, Asie centrale. Voilà, et donc souvent ces gens nous disent, oui, ne vous inquiétez pas, j'ai parlé en anglais ou en russe, on dit pas question. On est absolument très, très radicaux là-dessus, et les gens qui viennent chez nous parlent leur langue maternelle, et on se trouve toujours des traducteurs, des interprètes, pardon, pour voilà, pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus authentique. On a un festival aussi fin septembre au moment de la journée européenne des langues qui s'appelle Langue de cuisine, alors qui change de forme tous les ans, mais en gros c'est basé sur le passeport des passeports pour les langues de la DGLFLF. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la délégation générale à la langue française et aux langues de France, voilà, donc qui s'occupe un peu de la francophonie et des langues régionales. Qui soutient la Maison d'Europe et d'Orient, évidemment. Et donc, on organise des soirées croisées ou non, avec un cours d'initiation relativement magistral sur la langue et éventuellement la civilisation concernée. Et ensuite, on passe à la cuisine. On fait autour, voilà, de la fabrication d'un plat. On étudie, voilà, quel mot vient de quelle langue. Est-ce que baklava, c'est turc, c'est russe? Non, c'est persan. Ça finit toujours à qui est ce baklava. Et voilà, c'est très convivial. Et on peut faire aussi la même chose en chanson. Ce qui est assez, voilà, on peut apprendre une chanson dans la langue invitée. Voilà, c'est toujours très amusant. Donc, je vous donne rendez-vous fin septembre. Alors peut-être deux oui, non. Alors le réseau, donc Eurodrame, alors je vais vous montrer, c'est par là, donc voilà, c'est ici, donc là je vais être un peu concret pour les gens que ça intéresse. Donc là c'est le mode d'emploi, voilà, qui peut être assez complexe, donc on essaie de le traduire dans toutes les langues du réseau. On va prendre le français puisqu'on est à Paris, voilà, et donc on essaye, bon, on peut pas tout voir évidemment, donc c'est un réseau qui regroupe à peu près 300 membres, donc sur toute la zone de travail, organisé en une grosse trentaine de comités linguistiques, dont font partie, voilà, un certain nombre de nos invités ce soir. Et voilà, qui fait circuler à peu près 300 textes de théâtre, un petit peu dans tous les sens. Donc on a longtemps travaillé en bilatéral depuis les langues d'Europe de l'Est vers le français. Et depuis 3-4 ans, on essaye de travailler de manière multilatérale, c'est-à-dire que voilà, la ressource qu'on arrive à mettre en avant puisse profiter non pas uniquement aux francophones, mais voilà, de manière multilatérale à tous les autres. Et c'est assez intéressant, puisque autant pour le français sur le domaine du théâtre, on a quasiment traduit les pièces principales de toutes les communautés majoritaires, on va dire majeures en Europe, sauf l'ukrainien, mais c'est pour très bientôt. Neda va nous en parler. Et voilà, donc c'était intéressant, voilà, que de faire connaître des pièces arméniennes aux Islandais, ou albanaises aux Lettons, ou biélorusses aux Israéliens, etc. Et voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, donc vous pouvez tout savoir si vous voulez savoir comment ça marche, parce que c'est un peu l'usine à gaz, donc vous pouvez vous y reporter. Voilà, donc on a, là je jette un coup d'œil sur les comités linguistiques, on va prendre voilà, l'espagnol par exemple. Donc il y a des lieux ressources, voilà. Donc un endroit où on peut trouver de la ressource pour faire des traductions, quelqu'un qui s'occupe de la coordination, évidemment, les membres, voilà, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a des, voilà, je vais vous montrer plutôt les sélections, je vais vous montrer tout d'un coup, ça sera peut-être mieux, si je reviens là. Voilà, c'est là. Donc là, donc ça fonctionne, oui, de manière biennale, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, une année, on va faire une sélection de textes originaux qu'on recommande à la traduction et évidemment à la création et l'édition vers une autre langue. Et l'année suivante, c'est l'inverse, c'est-à-dire que chaque comité sélectionne trois traductions vers sa propre langue. Et voilà, donc ça permet de donner une photographie un peu chaque année ou de manière biennale de ce qui s'écrit. Voilà, on essaye de pas donner que le français et l'anglais comme langue véhiculaire, mais voilà, d'introduire le russe, ce qui nous permet de pas laisser sur le bord de la route tout un tas de pays, de cultures intéressantes. Et voilà, donc là vous avez l'albanais, Yeton Ezirai, qui sera invité à Lyon prochainement. Vous avez l'arménien, le balkar. Je ne sais pas si vous connaissez la langue balkar, voilà, qui est dans le Caucase Nord. Voilà, il y en a tout un tas. Bon, je pense qu'ici ça vous étonnera pas, mais voilà, on a des pièces géorgiennes. C'est toujours, j'adore regarder moi ces lettres-là. Et puis, donc avec quelques spécificité quand même, puisque donc on a un comité BCMS, donc le BCMS, c'est le bosniaque croate monténégrin serbe que coordonne Karine, donc voilà, c'est une langue qui est à peu près la même, on va dire, sinon je vais me faire engueuler, mais quasiment la même, chacun essaie de trouver ses différences, mais qui a voilà quatre noms différents. C'est comme si on disait le belgo-franco-suisse ou roman, voilà. Voilà, ou l'Asie centrale, il y a un seul comité sur l'Asie centrale, puisque l'activité théâtrale hors les théâtres russophones est quand même relativement réduite, mais il y a des choses quand même. Ou le Caucase Nord, où là il y a une telle multiplicité de langues que ça serait compliqué d'avoir un comité pour l'Ossètre, un autre pour l'Adjar, un autre pour l'Abraz, un autre pour le Lac et j'en passe. Voilà. Et puis de toute façon, tous ces gens communiquent entre eux par le russe, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'intéressant ? Oui, voilà, donc il y a une maison d'édition qui fonctionne avec ça, qui ne fait plus partie du réseau maintenant, mais qui en tire 99% de sa ressource, donc vers le français. Voilà, qui a été la première maison d'édition française, toutes disciplines confondues, enfin tout genre confondu, à être financée par l'Union européenne sur le programme de la traduction. Et voilà, par rapport aux exemples que citait Ghislaine tout à l'heure, voilà, de l'arabe par exemple, on a traduit les monologues de Gaza, qui était un projet du théâtre Ashtar de Ramallah, un projet d'atelier d'écriture avec des enfants, qui a été lu devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, on parlait de Turquie, donc on a une anthologie, on a pas mal d'anthologies comme ça pour explorer un petit peu ces dramaturgies. On a notamment le seul, à ma connaissance, texte turc, enfin du domaine turc, on va dire au sens large, pas seulement linguistique, a évoqué la question du génocide arménien, enfin de la grande catastrophe arménienne, et voilà, qui s'appelle Les Descendants de Sedef Edger. Voilà, on parlait aussi de tout ce background, pour un joli mot, de ces classiques qui sont totalement inconnus, enfin en grande partie inconnus chez nous, Alors que chez eux, ils connaissent, enfin, au moins en Europe de l'Est, ils connaissent parfaitement les classiques français. Et on a, voilà, publié, par exemple, une pièce du réalisme socialiste qui s'appelle Les taches sombres de Minou Chirot. Donc, voilà, c'est un objet assez rare dans la littérature française. Voilà, on essaye voilà, quand on travaille avec les traducteurs, qu'ils soient toujours payés. Voilà, ça c'est un petit peu une règle absolue chez nous. Il y a des contrats systématiquement. Voilà, on est un peu psychorigide sur cette question. Voilà, on essaye aussi au niveau des éditions. Je parle des éditions parce que c'est vraiment la conséquence directe de, au moins de ce côté français de ce qu'on essaye de faire. On fait toujours préfacer les livres pour justement présenter un petit peu ce contexte local pour que voilà le lecteur puisse un petit peu y voir un peu plus clair. On les fait toujours suivre d'un petit tableau qu'on appelle élément de prononciation qui permet voilà aux malheureux occidentaux que nous sommes de non pas de prononcer parfaitement telle ou telle langue, ça c'est plus compliqué évidemment, mais d'avoir au moins les rudiments parmi les sons qu'il est capable de formuler. Voilà, on a aussi dans les comités, on a un comité romani. Voilà, c'est une langue dont on parle souvent. Il n'y a pas plus tard que 48 heures, j'essayais de persuader quelqu'un de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques que cette langue existait. Il dit, mais non, mais le romani, mais c'est le roumain, vous voulez dire. Non, le romani n'est pas le roumain. Et voilà, donc on a aussi... la seule pièce de théâtre traduite du romani en français dans notre collection, ça s'appelle Kosovo mon amour. Et voilà un mot de plus pour dire que, je ne sais pas si vous le savez, mais le romani étant langue officielle d'aucun des États de l'Union européenne, n'est pas non plus langue officielle de l'Union européenne, alors qu'il compte quand même 11 millions de locuteurs en Europe. Et que c'est la principale minorité, on va dire ethno-linguistique en Europe. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, on parlait de bibliographie. Donc, on essaye effectivement de suivre ce mouvement, de donner des, parce qu'effectivement les ressources dans la matière sont vraiment extrêmement éparses. Et voilà, donc on essaye petit à petit d'emmener de mettre en ligne un certain nombre de bibliographies. Je vois qu'on a on a une de Biélorussie, je crois qu'il y a des gens qui s'intéressent à la littérature biélorusse dans la salle. Voilà, et donc là vous avez une liste des textes d'expression biélorussienne. Traduit en français, voilà. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux raconter de plus. Pour l'essentiel, je crois que c'est tout.
On peut peut-être ajouter que la Maison d'Europe et d'Orient accueille des artistes en résidence.
Oui, tout à fait, absolument. On accueille toute l'année des plusieurs artistes en résidence. Donc Neda Nejdana qui va vous parler juste après moi. Karine Samargia était en résidence ces trois derniers mois, donc janvier, février, mars. On n'arrive pas à s'en débarrasser parce qu'elle sera là jusqu'au mois de juin, puisqu'on va avoir une saison bosnienne à laquelle elle va activement participer. Voilà, on va recevoir, on a Sedef Edjer aussi, donc qui là c'est pour l'écriture du scénario, qui est en train d'écrire un film en résidence chez nous. On va avoir Lacha Bouradze, qui est le principal dramaturge géorgien, qui arrive la semaine prochaine. Risto Boychev, qui est le principal dramaturge bulgare, sera aussi chez nous à partir du mois d'octobre. Voilà, plus Justine Wojtyniak, qui est une metteur en scène polonaise aussi, qui est en résidence chez nous pour l'année, tout ça avec le soutien soit de la DRAC, soit du Conseil régional Île-de-France.
Merci Dominique. Et donc ça nous donne voilà l'occasion, la chance de pouvoir avoir avec nous Nejdana, donc en résidence à la Maison d'Europe et d'Orient, qui est l'auteur de 16 pièces de théâtre, dont la plupart ont été mises en scène en Ukraine, en Biélorussie, aux États-Unis, en Pologne ou en Russie. Ces œuvres ont été récompensées par de nombreux prix lors de concours littéraires et dans différents festivals. Et notamment, trois de ses pièces ont été publiées parmi les meilleures pièces européennes par la European Theatre Convention en 2004, 2008 et 2012. Nejdana est aujourd'hui présidente de la Confédération des dramaturges d'Ukraine et chef du département des projets dramaturgiques au Centre national d'art théâtral Les Courbas. Ses pièces de théâtre et ses articles critiques ont été traduits en allemand, en anglais, en arménien, en polonais et en russe. Et elle-même a traduit une dizaine de pièces de théâtre biélorusses, françaises et russes qu'elle a elle-même mise en scène en Ukraine. Elle est notamment, donc depuis 2011, marraine de l'Ukraine dans de grands festivals dramatiques en Europe, comme la Biennale de Wiesbaden en Allemagne, et coordonne également le comité ukrainien d'Eurodrame, dont Dominique parlait à l'instant. Et donc, je lui passe la parole pour qu'elle nous parle de les lieux de la traduction donc, en Ukraine, de la circulation des œuvres, des communautés de traducteurs et de la façon dont ces œuvres, elles, circulent et sont traduites.
Merci. Merci pour l'invitation. Moi, je suis en résidence ici à Paris, à la Maison d'Europe d'Orient, avec trois buts. L'un, c'est la traduction des pièces françaises, chercher, trouver et traduire des pièces pour l'anthologie française en ukrainien. L'autre but, c'est la proposition de panorama du livre des pièces ukrainiennes en français. Et l'autre, c'est écrire la pièce qui peut être présentée au mois de mai pendant le festival à la Maison d'Europe d'Orient par un fragment ou par la lecture. Donc, premièrement, je vais parler à propos des méthodes de mon expérience de la traduction théâtrale en Ukraine et puis de ce projet de l'anthologie des pièces ukrainiennes. Donc, moi, j'ai traduit à peu près 10 pièces du français, du russe, du biélorusse, mais surtout c'est du français, les pièces de Matej Wiesniek, de Eric Emmanuel Schmidt, de Mockler, de Rémi DeVos, de Belasco et autres. Il existe différentes façons de soutenir les traductions littéraires en Ukraine. Surtout, il y a quelques maisons d'édition qui se spécialisent à la littérature étrangère, mais il y a peu de maisons d'édition qui soutiennent la dramaturgie. Par exemple, c'est la maison d'édition Univers, la maison d'édition de Jupanski. Et encore, il y a la revue Vsesvit, c'est-à-dire Univers en ukrainien, qui publie chaque mois la littérature et encore la dramaturgie de différentes langues. Moi, je travaille dans le centre de l'art théâtral Les Courbas, qui a quelques directions, et moi, je suis le chef du département des projets dramatiques et dramaturgiques. Donc, ce sont des projets différents, c'est peut-être des livres, la bibliothèque à l'Internet, des pièces, et puis c'est les lectures scéniques, ce sont les spectacles, et encore les conférences, les articles consacrés à la dramaturgie. Il y a le projet qui s'appelle la dramaturgie mondiale, le dialogue de culture, qui consiste en traduction, lecture, en publication et spectacle des pièces étrangères en ukrainien et ukrainien à l'étranger. Et moi, j'ai réalisé avec mes collègues le projet qui français de 6 pièces françaises avec le centre Les Courbas, avec l'Institut français, surtout le programme Skovoroda qui soutient la traduction pour les maisons d'édition et la maison d'édition Univers. Qui consiste en quelques étapes, c'est la traduction des pièces, puis c'est l'édition du livre, c'est le dialogue critique entre les deux points de vue sur les textes français et ukrainiens, encore les lectures scéniques des fragments et on fait le choix pour les spectacles. Surtout, c'était l'histoire des ours pandas de Matej Wiśniewski, qui était le plus joué. Il y a près de 10 mises en scène en Ukraine de cette pièce, après cette publication. Il y a le livre qui part chaque année. Il s'appelle Kurbasivski Chitanya, c'est-à-dire les lectures de Les Kurbas, qui publie les articles scientifiques consacrés au théâtre et à la dramaturgie, et encore les pièces. Et on a publié comme ça les textes dramatiques autriche, macédoine, polonais, turc et français. Maintenant, il y a encore deux autres possibilités de traduction dramatique. Il y a le programme du ministère de la Culture qui soutient les textes, qui soutient par l'argent les textes mis en scène dans les grands théâtres ukrainiens et traduction nouveau. Ces programmes existaient auparavant, mais aux périodes de Yanukovych, elle était bloquée. Mais j'espère que maintenant, on peut renouveler ces programmes parce que le programme existe, mais on ne perd rien pour ça. C'est aussi la possibilité pour les traducteurs. Et il y a encore la possibilité du pourcentage de billets parce que le système théâtral en Ukraine ce n'est pas le même qu'en France qu'aux autres pays européens c'est le théâtre du répertoire, c'est-à-dire on joue trois spectacles de la première et puis on joue le spectacle une fois par mois. C'est peut-être un an, c'est peut-être 10 ans, ça dépend de la situation. Donc les auteurs, les traducteurs peuvent avoir de 2 à 4% pour les billets de ce spectacle. Donc si c'est une petite salle, c'est presque rien, mais si c'est une grande salle, c'est aussi la possibilité pour les traducteurs. Il y a encore la possibilité du travail avec les théâtres parce que les théâtres peuvent commander la traduction au traducteur et, parce que moi je suis dramaturge donc je comprends ce que la parole scénique et même peut-être je suis plus précise dans la traduction que dans mes textes parce que l'attention est surtout sur la langue. Les metteurs en scène, ils comprennent que je comprends bien cette parole scénique. Donc, il y avait des chances aussi comme ça. Toutes les pièces de Schmitt, j'ai traduit pour les théâtres. Schmitt est très populaire en Ukraine. On aime cet auteur. Et quand il était à Kiev, l'année passée, j'ai vu le plus grand queue pour la signature. C'était pour Schmitt, vraiment, que j'ai vu jamais dans la vie à Kiev. Il y a encore le festival qui s'appelle le Printemps français en Ukraine, surtout à Kiev, qui a les différentes formes de travail, surtout pour la créature théâtrale. Par exemple, le spectacle de Rémi Devos, Jusqu'à la mort nous sépare, était préparé surtout pour ce festival Printemps français. C'était l'auteur français et le metteur en scène français qui a théâtre, monde du théâtre à Kiev. Il y a les différentes formes plus individuelles. Par exemple, je peux proposer les textes qui me plaît par les annotations ou par les textes pour le metteur en scène, le comédien que je connais. Par exemple, quelqu'un cherche une pièce pour tel ou tel comédien ou pour tel ou tel genre, donc je peux aider à trouver ces textes. Et je peux aussi traduire pour moi-même, parce que, par exemple, le texte de Matej Wiśniewski, ça me plaît. Et je traduis d'abord pour moi-même parce que ça me plaît. Il y a quelques pièces courtes qui j'ai traduites maintenant, mais je les choisis auparavant et non plus tôt. C'était des textes très exotiques pour notre situation, par exemple les soldats morts, les snipers, etc. Mais maintenant, c'est très actuel pour l'Ukraine. Donc, parfois, c'est quelque chose quand tu peux prévenir l'avenir. Donc, c'est étrange même pour moi, mais ça peut exister dans la traduction aussi. Et la deuxième partie, c'est la partie de l'anthologie ou de panorama ukrainienne. Pour moi, c'est très dommage que la dramaturgie de l'Ukraine, la littérature, mais surtout la dramaturgie, n'est pas connue en France. D'abord, c'est le plus grand pays de l'Europe. Il y a par les territoires, je ne sais pas, peut-être sans Crimée, je ne sais pas, mais auparavant c'était le plus grand pays. Et les textes, les pièces ukrainiennes sont traduites en anglais, en allemand, en polonais, en serbe, macédoine, en d'autres langues. Mais je pense qu'en français, c'est très rare. Et maintenant, il y a le projet en cours avec la Maison d'Europe d'Orient à propos de classiques ukrainiens. Mykola Kolish, c'est les années 30 du XXe siècle. La sonate pathétique, c'est l'un des plus célèbres dramaturges qui travaille avec Les Kourbas, le metteur en scène le plus célèbre en Ukraine. Et j'espère que cette pièce... déjà prête, la traduction est prête, et elle va éditer à la Maison d'Europe d'Orient. Et encore maintenant, c'est le nouveau projet des pièces contemporaines ukrainiennes. Et nous sommes ouvert pour les propositions des traducteurs de l'ukrainien en français, pour les gens qui sont prêts à prendre part à ces projets. Donc, si ça existe ici, c'était très intéressant pour nous. Et encore, on prépare la soirée consacrée à la dramaturgie ukrainienne, il me semble que c'est la deuxième moitié du mois de mai à la Maison d'Europe d'Orient. Je peux raconter de ma créature, aussi des créatures des autres dramaturges ukrainiens, avec des photos, avec des annotations de pièces et tout ça, donc, et avec des fragments des pièces traduites en ukrainien. Donc, j'invite avec la Maison d'Europe d'Orient pour le projet et pour cette soirée. Merci.
Merci à vous, Neda, pour ce panorama à la fois rapide, complet, de la situation en Ukraine, de la traduction et de vos propres traductions. Avez-vous des questions dans la salle? Je vous propose de passer avec un micro, des questions pour l'ensemble de nos intervenants. Oui, Patrick. Non, non, mais bougez pas, bougez pas. Je vais faire de l'exercice.
Bonjour à tous. Merci infiniment de tout ce que vous avez dit. Merci d'être venu jusqu'à l'INALCO en fin de journée comme ça. Et tant pis pour les absents. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de développer, mais ça viendra petit à petit, en particulier grâce à vous. Merci surtout d'avoir, pour une fois, mis l'accent sur la question de la traduction, qui est vraiment le parent faible, le parent pauvre, ou voire même pas le parent du tout, de toute la chaîne de l'édition. C'est celui dont on parle en dernier. C'est cette sorte de truchement qu'il y a entre tel événement, telle culture, et dont on ne parle jamais. Et vous êtes tous intervenus aujourd'hui comme des sortes de truchements de truchements, comme ceux qui mettent à jour les travaux de traducteurs. Et merci et bravo pour ça, mais j'en voudrais plus. Je voudrais que vous entriez un tout petit peu plus dans les détails, et en particulier sur les traducteurs avec lesquels vous travaillez, puisque nous en formons ici. Vous avez parlé de l'ETL tout à l'heure, on fait ça là-bas aussi. Bonjour. Je voudrais savoir avec qui vous travaillez, s'il est possible de dire de façon relativement simple comment vous trouvez vos traducteurs, quelle sorte de traducteurs vous utilisez, comment vous travaillez avec eux, comment vous les évaluez, sachant que vous êtes pour la plupart traducteurs vous-même. Merci.
Alors, qui se lance pour répondre?
Alors, pour la revue Rhetor, c'est très simple, c'est vraiment de bouche à l'oreille, hein. Comme on a commencé à dire dès le début, tout était issu des études où on avait affaire à des textes en langue étrangère et à des personnes qui étaient passionnées par ce texte et qui étaient passionnées par la traduction, par les tentatives de le mettre en français, de le faire circuler, de le faire lire en France. Donc, le premier numéro, il s'est constitué presque d'une façon très très spontanée.
Avec des étudiants en littérature comparée, des comparatistes.
Qui avaient tous donc affaire à des textes d'avant-garde, des textes poétiques d'avant-garde inédits en français et qui n'ont pas encore été traduits.
Donc c'était souvent pour eux, comme ils étaient étudiants en littérature, leur sujet de recherche. Donc, il y avait quand même un certain recul.
Voilà, donc qui ont déjà en fait travaillé ce texte dans le cadre de leur recherche et qui sont revenus ensuite sur leur traduction et qui ont vu ça d'une autre manière pour la publication. Puis comme Karine nous en a parlé tout à l'heure, nous avons eu quelqu'un parmi dans ce groupe de doctorants à Paris 3 qui avait été très passionné par la littérature d'Amérique du Sud et hispanophone en général et qui a donc coordonné trois ateliers autour de ce texte-là en contactant des personnes dont ils savaient qu'ils écrivaient ou qu'ils traduisaient. Comme je l'avais dit au début, les conditions de travail sont très particulières puisque nous n'avons pas de financement, donc nous ne payons pas nos traducteurs. Donc c'est pas les conditions de travail que les traducteurs littéraires attendent aujourd'hui. Néanmoins, nous ne publions jamais des textes en entier si c'est des textes longs. Souvent, ce sont des extraits et en fait, le but, hein, c'est d'aider à la publication, à la vraie édition. Voilà, et donc le dernier atelier, donc effectivement, c'est l'école de traduction littéraire qui est fondée par Olivier Manoni en 2013 et où 16 traducteurs de 14 langues différentes s'exercent une fois tous les 15 jours à traduire des textes, à réfléchir ensemble sur la traduction. Et ces personnes-là ont donc déjà au moins une traduction publiée. Ils ont tous
énormément de textes littéraires de qualité traduits en français qui dorment au fond de leur tiroir puisqu'ils n'ont pas pu être publiés. Nous avons lancé cet appel-là tout récemment. Nous avons donc déjà eu deux réponses avec de très beaux textes. Donc, d'un côté avec Kamau Brathwaite, traduit par Sika Fakambi, et d'un autre côté le 7 essais inédits de Heinrich Boll en français. Voilà, pour la revue Rhétor.
Oui, nous on travaille d'une façon un petit peu assez comparable. Effectivement, le bouche à oreille dans nos micro-milieux est évidemment largement déterminant, mais c'est vraiment tout aussi important pour nous que ça ne soit pas un club fermé. Ça, c'est vraiment vraiment très très important. Et donc on lance très régulièrement, à peu près une fois par saison, un appel. Alors une année c'est à textes originaux et à lecteurs simplement de ces textes, et l'année suivante c'est appel à traduction et à traducteurs pour qu'ils rejoignent notre réseau. Appel à question de l'évaluation, elle est plus complexe, je dirais plus longue, parce que bon, il y a évidemment une partie d'expérience, voilà, où on se rend au bout d'un moment. Voilà, personnellement je suis traducteur de rien, mais après avoir corrigé 250 traductions ou quelque chose comme ça, je commence à repérer qui inverse les verbes, les compléments d'objets, et je dis ah, là il y a un bug. Et puis, bon, évidemment, on essaie de travailler avec des référents qui sont pas des personnalités officielles, on va dire, au sein du réseau, mais qui, pour nous, voilà, sont à la fois ceux qui sont le plus reconnus d'une manière scientifique, c'est-à-dire sur leur connaissance linguistique pure, et sur leur reconnaissance par leur père. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Et voilà, grâce à l'avis général, grâce à ces avis de référents, on arrive à savoir un petit peu à qui on a affaire. Et après, on n'est pas non plus un réseau, enfin on veut pas être un réseau de grands pontes, voilà. Et donc on tient aussi à ce que dans les réseaux, il y ait des super bons traducteurs, il y ait des traducteurs en devenir, voilà, même médiocres, mais qui vont s'améliorer justement au contact des autres, parce que notamment ils vont pas forcément traduire vers les deux ou vers les mêmes langues. Et puis voilà, pour l'essentiel, on essaie aussi de choisir des gens voilà, qui ont une certaine déontologie et une certaine vision des relations humaines. Voilà, il y a des gens qui sont très beaux, très bons, mais tellement insupportables qu'on préfère les laisser aux autres. Voilà. Vous avez parlé de la marge aussi. Ça, c'est quand même important. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on vit vraiment quasiment tous les jours. Je parlais du Romani tout à l'heure, mais voilà, pour le monde de l'édition, par exemple. L'édition littéraire, on va dire au sens large, on fait du théâtre, donc on est déjà un petit peu à part. Dans le monde du théâtre, on fait de la traduction, donc on est encore un petit peu à part. Dans le monde de la traduction, on fait pas de l'anglo-saxon, donc on est encore plus à part. Et dans ce monde à part, on fait aussi tout un travail avec ce qu'on appelle des nulle part ailleurs, des territoires qui n'existent pas et qui ont parfois aussi leur langue. Voilà, je pense à Chypre du Nord, la Transnistrie, le Kosovo à une époque, la Macédoine qui n'a pas le droit de porter son nom, le Karabakh, l'Ossétie, la Brasie, etc. Voilà, un certain nombre d'endroits et donc de populations, de langues, de cultures qui sont de plus en plus marginalisées. Et c'est vrai que autant sur voilà, le théâtre allemand, on n'a rien fait et il est peu probable qu'on fasse grand-chose avant un moment, quoique, voilà, on a un comité allemand maintenant. Mais voilà, sur le Tchétchène, sur l'Albanais, sur le Biélorussien, voilà, on a été, grâce à nos collaborateurs, Etris, on a posé quand même un certain nombre de choses, et je me fais écho, voilà, de l'appel de Neda. On cherche des traducteurs de l'ukrainien vers le français pour faire cette anthologie. Si c'est pas des gens qui sont absolument hyper compétents, parce qu'ils connaissent mal le théâtre, ou leur langue maternelle n'est pas forcément le français, ou ils sont français mais ils sont qu'en troisième année ou quatrième année d'études, ben on fait comme disait Ghislaine tout à l'heure, on essaie de monter des binômes avec des gens qui vont pouvoir superviser, d'autres qui vont voilà, dire ben non, au théâtre c'est pas gauche et droite, c'est cour et jardin, voilà, des choses comme ça. Bon, je parle des plus évidentes. Et là où on a la plus grosse difficulté pour nous de trouver des traducteurs, parce qu'on a travaillé pendant quasiment 20 ans dans le sens voilà, vers la francophonie et qu'on est passé à ce multilatéralisme, c'est vrai que trouver des traducteurs entre l'ukrainien et le portugais ou entre le serbe et le letton, ça reste quand même encore assez compliqué pour nous. Parce que, notamment, il n'y a pas forcément... C'est les pratiques, nos pratiques qui sont quand même relativement occidentales, voilà, de réseaux, de lecture publique, de comités de lecture. Voilà, ça, c'est un petit peu exotique à l'Est. Pas partout, mais dans certains endroits. Et donc, voilà, on essaye à partir de ce brassage de construire quelque chose.
Oui, très, très brièvement, pour Transeuropéenne, alors là, les contraintes sont un peu différentes puisqu'il y a la dimension sciences humaines et sociales qui suppose qu'on ait des gens bien formés dans les disciplines qu'ils traduisent. On fonctionne beaucoup par réseau. Beaucoup par réseau à partir des auteurs eux-mêmes. Notamment quand ils maîtrisent le français ou l'une des langues vers lesquelles nous traduisons, c'est-à-dire anglais, français, arabe. Par exemple, dans tout le travail antérieur que nous avons fait, je dirais que c'est notamment pour l'ex-serbo-croate. bon, je prends cet exemple parce qu'on a beaucoup traduit de ces langues de l'ex-Yougoslavie. On identifiait effectivement des traducteurs, même jeunes, qui étaient déjà dans une proximité intellectuelle en tant qu'anciens étudiants ou en tant que proches des auteurs qu'on traduisait. Et certains d'entre eux, par ailleurs, ou par la suite, avaient participé à nos universités d'été. Donc, c'était une sorte de vivier extraordinaire de jeunes traducteurs qui n'ont pas fait que de la traduction, qui maintenant sont aussi des auteurs eux-mêmes. Pour le monde arabe, j'aurais tendance à dire que là aussi, souvent, on remonte les pistes soit par des enseignants ou des enseignants-chercheurs avec lesquels on est en contact, notamment dans les instituts de recherche français à l'étranger. Je pense par exemple à l'Institut français du Proche-Orient où il y a souvent des jeunes chercheurs de très grande qualité et qui sont eux-mêmes dans le processus d'auto-traduction de leur propre travail, notamment quand ils décident de passer à l'acte, c'est-à-dire de traduire leurs propres recherches qu'ils ont écrites en français en arabe, alors même que c'est un travail d'anthropologie, d'ethnologie ou de sociologie qui porte sur tel village de Jordanie ou tel problème au Liban. Et ça, c'est une démarche extrêmement intéressante et qui fait qu'on a des gens très alertés sur un certain nombre d'enjeux de la traduction pour la recherche. Donc voilà un petit peu. Je crois surtout que dans la démarche qui est la nôtre, on s'appuie aussi sur des traducteurs expérimentés. Je veux dire, des gens comme Richard Jacquemont, des gens, voilà, maintenant Emmanuel Varlet, qui, de jeune traducteur, est devenu un traducteur très expérimenté en arabe, et qui eux-mêmes construisent leur propre réseau de jeunes traducteurs ou qui vont aimanter des jeunes traducteurs. Donc c'est comme ça tout un travail de transmission de cette pratique et d'une certaine exigence. C'est Dominique qui parlait de déontologie. Alors nous, nous payons tous les traducteurs puisqu'on n'a jamais rien on n'a jamais rien publié en traduction qui ne soit pas rémunéré depuis 93. Par contre, on est très très à cheval sur la déontologie, sur le rapport du traducteur au texte, sur le rapport du traducteur à l'auteur, et sur la capacité aussi qu'a le traducteur d'entrer en discussion quand on lui dit voilà, votre traduction là, on n'y comprend rien. on peut reprendre ensemble, etc. Et ça, je crois que ces éléments-là sont pour nous des éléments discriminants. C'est-à-dire, on fait notre choix vraiment autour d'un rapport éthique à la traduction et à l'écriture.
Je peux dire très brièvement, c'est peut-être les dramaturges qui savent les langues. Puis c'est les professeurs des universités, peut-être des étudiants. Par exemple, il y a la faculté créature littéraire où, comme diplôme, on peut prendre la traduction d'une œuvre ou de la pièce. Et encore, c'est peut-être le metteur en scène qui travaille avec le professeur ou le dramaturge. Donc, il y a deux auteurs de la traduction. Et les immigrants. Les Ukrainiens qui habitent dans les autres pays ou les étrangers qui habitent en Ukraine. Donc, par exemple, il y a un personnage très connu, Dejana Dačić, qui est serbe, qui fait plus que deux ministères de culture de deux pays pour les projets d'art, pour les projets littéraires. Donc c'est ça. Merci.
Oui, et je me fais gronder par ma camarade parce que j'ai oublié. Oui, par rapport à ce travail qu'on fait avec les traducteurs, on fait des ateliers de lecture à voix haute avec des comédiens. Voilà, ce qui est un peu indispensable pour le théâtre. Mais voilà, je sais que les traducteurs qui ont pas forcément l'occasion d'entendre leurs pièces dites par des comédiens professionnels avant que ça soit voilà mis sur le marché entre guillemets, c'est vrai que ça révèle tout un tas de choses et que bon, un traducteur littéraire, on va dire, a tendance à traduire de façon littéraire et le voilà dans les deux sens du mot. Et c'est vrai qu'au théâtre il y a besoin d'un langage et d'une théâtralité qui est différente. Alors, il ne s'agit pas de supprimer toutes les négations pour faire comme si ça avait l'air d'un dialogue. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais voilà, c'est très intéressant et voilà, et sur l'écriture elle-même et sur plus profondément la théâtralité des textes, qui voilà quelque chose d'un peu plus compliqué à définir. Et donc voilà, on appelle ça l'épreuve de la lecture. Voilà, c'est toujours assez amusant. Et oui, je n'ai quasiment pas parlé de ce que Neda a évoqué tout à l'heure. On a un deuxième festival en fait dans l'année qui, j'oublie toujours la moitié des choses, qui s'appelle l'Europe des théâtres, qui est le festival européen de la traduction théâtrale. Et c'est une sorte de fête de la musique en fait, mais qui concerne des lectures de traduction de pièces de théâtre. Et ça se passe voilà, je crois qu'il y a deux ans on avait eu 40 villes dans 17 pays différentes et tout le monde essaye voilà, d'organiser une lecture publique d'une traduction. Alors c'est toujours rigolo de voir ce qui est lu à tel autre endroit. Des fois il y a des pièces qui sont lues au même moment dans deux langues, la même pièce dans deux langues différentes. Alors suivant l'heure, parce qu'il y a tout souvent un décalage, on se fait des Skype comme ça. C'est toujours assez amusant. Et on n'a pas fixé encore, donc il y aura une soirée avec Neda qui sera entre le 19 et le 24 mai, mais ce n'est pas encore fixé. Et si je peux faire encore un peu de pub, lundi prochain, donc le 14, non, je ne sais plus comment, on sera lundi prochain, on a le Jeune Théâtre National, donc qui est une association composée des jeunes comédiens qui sortent du Conservatoire National, qui va venir à la Maison d'Europe et d'Orient, s'emparer, voilà, nous lire un petit peu certains textes parmi ceux qu'ils ont choisis, Et donc les traducteurs de théâtre sont invités à venir apporter leurs textes. Voilà, on ne pourra pas tous les lire, pas en entier évidemment, mais voilà, des petits extraits, une scène comme ça, et un peu façon lundi en coulisses, je ne sais pas si vous connaissez cette manifestation, qui existe à Lyon et puis au théâtre de l'Aquarium. Voilà, on prend le texte. Alors, il me manque un soldat blessé, monsieur. Voilà, vous allez lire une servante, mademoiselle. Voilà, et ça continue. Et on fait entendre ces textes comme ça. Et il y aura une autre session pour clore le festival. Ça, c'est sûr, c'est le 24 mai à 19h30. Et c'est un petit peu sur le même principe, sauf que là, ça sera pas avec le JTN. Ça sera entre nous et ça va durer assez tard.
D'autres questions pour nos intervenants? Donc, Dominique vous a donné le programme.
À la Maison d'Europe et d'Orient, bien sûr.
Voilà, donc rendez-vous à la Maison d'Europe et d'Orient pour découvrir, redécouvrir ou revenir dans un lieu, un autre lieu de la traduction. Merci à tous nos intervenants, merci à tous nos participants et très bonne soirée.